Bonjour à tous, je suis au planning familial en présence d'Agathe Cros, animatrice de prévention. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Ainsi que sa collègue Camille Passuelo, aussi animatrice de prévention. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors à toutes les deux, on va commencer une question toute simple. Qui est le planning familial d'Indre-et-Loire ?
C'est une association qui existe depuis une cinquantaine d'années maintenant, 67 on va dire.
Oui.
Depuis 1967 en Indre-et-Loire, c'est une association qui se veut féministe, c'est mouvement d'éducation populaire qui œuvre dans le domaine de la prévention primaire autour de tout ce qui est vie affective et sexuelle et violence.
Alors j'ai vu que en fait il y avait pas mal de points sur le planning familial dans l'Indre-et-Loire. Vous n'êtes pas les seuls à défendre ce mouvement populaire puisque vous êtes une vingtaine d'agences dans l'Indre-et-Loire qui doit regrouper à peu près 400 bénévoles. C'est ce que j'ai vu. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Camille ?
Il n'y a qu'un planning familial en Indre-et-Loire. Nous, on fait tout ce qui est prévention. On n'a pas d'équipe médicale. Par contre, il y a dans le département des centres de planification qui, là, a des équipes médicales qui fait tout ce qui est suivi gynécologique, IVG et accompagnement, tout ce qui est dépistage. Il y a qui regroupe effectivement plus de 400 adhérents.
Voici la différence.
Je pense que les 20 antennes dont vous parliez, c'est nos permanences départementales en fait. On est basé à Tours, au centre de vie du Sanitas,
d'accord.
Mais on se déplace sur tout le département pour se rendre accessible au public et donc on propose des permanences sans rendez-vous. Mmh. Permanences d'accueil et d'écoute à Loches, à Chinon, à La Riche, Jouer-les-Tours, Château Renaud et compagnie.
Allez voir sur le site pour ceux qui sont intéressés. Que fait le planning familial 37 ?
De la prévention primaire, on intervient auprès de nombreux publics, auprès de tous les publics d'ailleurs, dans les écoles, dans les lycées, les CFA, les collèges, les MFR, on va rencontrer des personnes en situation de handicap sur leur lieu de vie, sur leur lieu de travail, on va rencontrer des personnes migrantes dans les associations d'alphabétisation ou d'insertion sociale, professionnelle.
Également tous les publics 16-30 ans qui sont déscolarisés dans tout ce qui est UFCV, mission locale, école de la deuxième chance. On travaille également à la maison d'arrêt de Tours, dans le quartier mineur et dans le quartier majeur.
C'est justement pour la remise, une fois que ces personnes sortiront, c'est pour la réinsertion
On bosse vraiment sur tout ce qui est vie affective et sexuelle et violence. Oui, oui. Dans ce cadre-là, les détenus ou prévenus qu'on rencontre à la maison d'arrêt de Tours sont quasiment systématiquement des auteurs de violence. Donc on les rencontre dans ce cadre-là en fait pour travailler sur le vécu, le passage à l'acte, pourquoi pas, enfin sur la situation de manière à éviter les récidives, en tout cas à lever les freins à l'insertion une fois sortie de la détention.
Pour faire prendre conscience que la violence, il n'y a pas lieu d'être sur notre planète. Même dans les maisons d'arrêt, c'est l'accompagnement individuel.
Les deux. On propose des accompagnements collectifs à la maison d'arrêt notamment. Il y a des groupes collectifs de majeurs et de mineurs. Et on propose aussi des accompagnements individuels au cas par cas pour ceux qui le souhaitent.
Pas les mêmes choses qui se jouent en collectif et en individuel. On va déconstruire en collectif, on va informer. Et c'est pas la même façon en collectif et individuel. Donc c'est important vraiment d'allier ces deux méthodes d'intervention qui sont essentielles.
Alors, quelles sont vos missions ? Alors, j'ai vu favoriser, questionner, etc., développer.
Nous, on entend informer le public. On est sur le concept d'éducation populaire. Et en fait, on part du principe que, je vous fais le concept d'éducation populaire très rapidement, on part du principe que tout le monde est en capacité de recevoir une information si on l'adapte à son niveau de compréhension, d'élaboration, à son âge. C'est ça, notre mission principale, c'est d'amener l'information autour de tout ce qui est vie affective et sexuelle et violence de manière adaptée à chacun pour qu'en fait chacun puisse faire après des choix éclairés et raisonnés dans sa vie.
Une question, tous ces bénévoles-là, quelle est leur sensibilité pour venir défendre de tels droits ou en tout cas former ou informer les personnes sur la sexualité, sur la violence ?
Alors nos bénévoles, on est assez fiers de nos rangs de bénévoles parce qu'ils sont nombreux. Déjà, ils sont 400, ils comportent presque une moitié d'hommes, ce qui est quand même notable dans une association féministe. Et puis, ils sont pour une grosse partie étudiants du secteur social, médico-social ou socio-éducatif. On a très peu de retraités, on en a aussi. Et puis sinon, ça va être des médecins, on a une instite qui vient de rejoindre nos rangs là, il y a quelques minutes, des psychologues, des infirmiers, infirmières, des éducateurs.
J'en passe, c'est des meilleurs.
Un panel très très large de bénévoles. Et ce qui fait aussi toute la richesse et toute la force des interventions après, c'est parce que chacun apporte ses compétences, sa façon de voir les choses et le travail se co-construit en fait.
Quelle est la population qui vous sollicite? Alors j'ai vu sur un article déjà de l'ANR vous avez eu 12 400 personnes pour l'année 2018, ce qui n'est pas rien pour vos 400 bénévoles.
Effectivement, je pense que ça s'explique aussi par le fait qu'on se déplace sur tout le département et qu'on veut se rendre accessible à tous.
Par rapport au chiffre que vous donnez, qui est très important, comme on l'a dit tout à l'heure, on fait des séances et individuelles. Donc ce chiffre-là, en fait, c'est des personnes comme si on les avait rencontrées une fois. Mais en fait, notre mode d'intervention, qui fait qu'on va rencontrer plusieurs fois en collectif et après en individuel, en fait, on les a rencontrées plein de fois, ces personnes. Donc ce chiffre, j'ai envie de dire qu'il est amoindri. Mais il est déjà parlant, je trouve.
Oui, parce que peu importe, de toute façon, les 12 400 personnes, elles sont passées entre vos mains, ou en tout cas, parmi votre écoute, vos informations, etc. C'est quand même, effectivement, même si ça ne représente pas 12 400 personnes différentes les unes des autres. Alors, je reviens sur vos missions. Je voyais dénoncer et combattre toute forme de violence, et notamment, et ça c'est dans l'actualité, les femmes victimes de violence. Mais je me dis avec que cette population, c'est certainement des choses que vous devez voir assez régulièrement ou entendre en tout cas.
Oui, on en voit beaucoup. Alors, je pense que c'est le lieu qui fait ça aussi, on est au planning familial d'André-Loire. Donc, on est là pour recevoir les femmes victimes de violences, les hommes également. Hein, vous faites les gros yeux, mais ça arrive. Beaucoup plus qu'on le pense, hein, des hommes battus également. Oui, alors au planning familial, pareil, on a plusieurs méthodes, plusieurs approches avec ce public. On propose des groupes de parole pour les femmes uniquement qui sont victimes de violences, qui ont été plutôt victimes de violences conjugales et ou sexuelles. Il n'y a pas de groupe d'hommes, je le précise, c'est pas parce qu'on ne le souhaite pas, c'est parce qu'on peine à constituer un groupe d'hommes. Voilà, mais
ils sont plus discrets sur le sujet ?
On peut le dire, et s'ils font la démarche de venir vers nous, en tout cas, c'est encore une autre étape que d'en discuter en collectif avec d'autres hommes, je pense.
Oui, ça sera plus individuel éventuellement.
Dans un premier temps, en tout cas. Ouais. Il y a ces groupes de parole pour les femmes donc victimes de violences, et puis on propose aussi un accompagnement individuel au cas par cas spécifique selon les cas. Et puis notre travail quand même au quotidien, c'est aussi de déceler un petit peu les situations de violence qu'on peut rencontrer sans souvent s'en rendre compte dans un groupe collectif ou même quand on est en collectif. Camille disait tout à l'heure qu'on n'a pas exactement la même approche, ce qui est vrai parce qu'on demande au public de pas parler de leur vie privée. En revanche, nous, on parle de violence. Très souvent, le public, ou en tout cas la personne qui va se sentir concernée, notre objectif, c'est qu'elle soit en capacité de revenir nous voir individuellement.
Un groupe de parole, quelle que soit l'histoire, ce que vous racontez, ça fait tilt la majorité du temps, ça fait tilt à les personnes qui assistent à groupe de parole.
Oui, ces groupes de parole-là, ils ont pour vocation aussi de libérer la parole, d'être écoutés, de déposer des choses. Et puis entendre les histoires des autres, ça peut aussi faire des petits pas pour avancer. Pensez aussi par rapport à la lutte contre les violences, on a des groupes à destination des femmes encore uniquement, par rapport au harcèlement de rue. Nadine Lorrain, de la DDCS, nous a accompagnés pour mettre en place ces groupes de harcèlement de rue. On en a eu 4 l'an dernier, on a encore 2 qui vont arriver là. Ça, c'est aussi important, parler de harcèlement de rue, de savoir quelles sont les méthodes qu'on utilise quand on a peur, quelles sont toutes ces choses-là, comment on banalise, C'est important aussi d'en parler, parce que la violence, il y a la violence dont on entend souvent parler, c'est-à-dire, très bien d'en entendre parler, de la violence physique, etc., mais il y a aussi le harcèlement, il y a plein de formes de violence.
Puis la violence verbale dans les foyers. Hein.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je
donc avec vous, Agathe, et puis Camille. Nous continuons sur le planning familial 37. On parlait effectivement des violences. Ben, une question par rapport à ça, on parlait de violences physiques, verbales sur les femmes et quelques hommes, vous avez dit, vous nous avez dévoilé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a plus de violence dans une ville, au niveau citadin, qu'à la campagne ?
Le fait qu'il y ait beaucoup plus de population en ville fait que peut-être ça émerge plus. Mais je ne pense pas. En fait, très honnêtement, il y a beaucoup aussi de violence au niveau rural. Sauf que voilà, il y a moins de lieux ressources, peut-être. Il y a le fait qu'on soit plus isolé qui fait que peut-être on a moins de facilité de le dire ou d'aller chercher de l'aide. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas moins de violence au milieu rural que dans le milieu urbain.
Par rapport à l'aide que vous proposez, les informations que vous pouvez donner, est-ce qu'il y a un suivi ensuite des personnes, enfin, vous les renvoyez dans peut-être une autre association pour que ça soit peut-être un petit peu plus leur venir en aide ou peut-être plus précis dans leur position, ce qu'ils subissent?
Oui, on fait un gros travail aussi d'orientation, effectivement. On bosse avec tout un tas d'associations comme France Victimes 37, comme le Centre d'information droits des femmes et des familles, comme Médiation et parentalité, comme la Maison des adolescents et j'en passe. C'est autant de partenaires qui nous servent à orienter le public au mieux parce qu'on est vraiment, nous, compétents uniquement sur le volet vie affective et sexuelle et violence. Et on ne veut pas, en fait, déborder parce qu'on n'est pas expert et on bosse avec des gens qui ont besoin qu'on les oriente au mieux.
Mais vous êtes un beau relais. Est-ce que dans les bénévoles, il y a des qualifications ? Alors, j'ai pu voir qu'en fait, il y avait des professionnels socio-médicaux qui arrivaient, qui étaient aussi... Sont-ils rémunérés ? Sont-ils bénévoles ? Comment ça se passe ?
On est une équipe de 5 salariés, dont notre directeur, dont Isabelle, notre gestionnaire administrative, effectivement. Et après, on est donc 3 animatrices de prévention, 3 salariés de terrain, tous drivés par le conseil d'administration du planning familial. Et ensuite, dans la pyramide, si je puis dire, il y a les adhérents et les bénévoles qui ne sont pas rémunérés, qui sont là de leur plein gré et qui donnent de leur temps. Alors pour certains, une fois par an, 2 heures, et pour d'autres, 4 heures par semaine. C'est vraiment...
Question particulière, Camille ? 2 mots ?
Alors, les qualifications, ils les ont de par leurs
leur
études,
profession,
leur profession.
Études, oui.
Non, on ne demande pas de qualifications particulières. Par contre, on propose plusieurs fois par an des formations à nos thématiques, qui là sont très importantes, des formations internes aux bénévoles et aux adhérents, pour pouvoir aussi nous accompagner au mieux sur le terrain et puis s'adapter à la demande de tous les publics.
Oui, parce que ce n'est pas évident de rentrer dans le planning familial. Vous parliez tout à l'heure d'une institutrice qui vient de se greffer, institutrice, enfin, violence, par exemple, familiale, le niveau des femmes, la sexualité, c'est peut-être loin de ses compétences premières, on va dire.
Comme on est sur le concept d'éducation populaire, on pratique beaucoup la co-formation, c'est-à-dire qu'on part jamais seul en intervention, même sur un entretien individuel, on part toujours à 2. Un bénévole ou salarié, ou qu'importe, une personne chevronnée, avec un plus novice, ou pas, hein, mais quand il y a des novices, on les emmène avec quelqu'un d'un peu chevronné, de manière à ce que petit à petit, la personne se forme. Et puis, on est assez libre au planning et on essaye de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise. Et donc, c'est aux bénévoles de nous dire, je me sens plutôt à l'aise pour partir sur telle intervention en tant que ce qu'on appelle intervenant principal. Cet intervenant qui était novice devient intervenant principal et va former aussi petit à petit d'autres bénévoles. Il y a des bénévoles qui mettent un mois à se lancer et puis d'autres qui font du bénévolat avec nous pendant un an et qui n'osent pas trop intervenir.
Mais en tout cas, on est toujours sur un petit échange en retour d'intervention, comment ça s'est passé. Ça, c'est important.
Mais oui, certainement, certainement. Depuis 4 ans, il y avait un accroissement d'activité. Comment vous vous en sortez ?
Avec toujours plus de bénévoles. Puis on fait ce qu'on peut. Alors, il y a un accroissement de l'activité, c'est vrai. On est victime de notre succès, en fait. On peut pas répondre à toutes les demandes. Il y a, je pense notamment, des établissements scolaires qui nous demandent d'intervenir et pour lesquels soit on peut répondre partiellement à la demande, c'est-à-dire qu'au lieu de voir toutes les classes, on va voir les classes de 5e parce que l'équipe pédagogique a décidé que c'était le plus important et les prioritaires. Mais on est victime de notre succès.
Les jeunes migrants, peut-être, qui arrivent sur notre territoire et...
Effectivement, on travaille avec tout le dispositif du DAE MENA de la DSE, puisqu'on ne l'a pas présenté dans les publics, mais on travaille aussi avec les foyers d'aide sociale à l'enfance.
Ah, mais oui.
Et il y a des mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle des MNA, qui sont arrivés sur le territoire et on les voit quasiment tous. L'approche est très très différente avec le public, elle est différente avec le public migrant, c'est qu'on est sur une approche interculturelle. Où on va échanger, où on va accompagner, où on va partir aussi de leur questionnement, ça c'est important.
Quels sont vos besoins aujourd'hui ? Alors, on a peut-être pu voir sur l'ANR qu'il y avait des besoins financiers. Vous aviez donc des, on pouvait faire des dons, mais est-ce que vous recrutez toujours des bénévoles ? Eh bien, la question justement suivante, c'est où vous les recrutez ? Viennent-ils spontanément à vous ?
En termes de financement, puisque c'est un point aussi qui est important à aborder, nous, on n'a pas de budget de financement. De fonctionnement, pardon. Mmh. On marche sur projet uniquement. Donc, en fait, on est toujours en train de faire répondre à des appels à projets et on n'a aucune visibilité sur l'avenir. Okay. C'est compliqué et bancal, en fait, parce qu'on n'a pas de vision. Pour répondre à votre deuxième question en termes de bénévoles, ils viennent souvent à nous. Et on a également tous les ans une formation qui s'appelle Prévention des conduites à risque en milieu festif, où on va former 60 étudiants du médico-social en première année. On n'a que 60 places, c'est une formation bénévole. Mais en tout cas, ça permet aussi de nous faire connaître. Il y a deux axes importants. Eux sont relais de prévention une fois qu'ils sont formés, et en même temps, tous nous ont rencontrés la première année. Potentiellement, ce sont des personnes avec qui on va travailler plus tard. On parle aussi du réseau partenarial qui est très important.
Adhérer pour soutenir vos missions, c'est un objectif en même temps, certainement pour développer, que ce soit le bénévolat ou les dons que l'on peut faire à votre association.
Vous, justement, vous nous demandiez de quoi on a besoin. On est toujours en train de recruter des bénévoles, c'est vrai. On est toujours ravis d'avoir de nouveaux bénévoles parce qu'il y en a qui s'essoufflent ou qui ont d'autres activités. Dont on a réellement besoin, c'est des adhérents. Il faut pouvoir différencier adhérents et bénévoles. Les bénévoles sont forcément des adhérents du planning familial, mais les adhérents du planning familial ne sont pas spécialement des bénévoles. Les adhérents ont la carte d'adhésion au planning familial et donc soutiennent de manière
financière. Dans un premier temps.
Financière, oui, mais c'est pas du tout ça qui nous fait vivre parce que vraiment le montant de la cotisation, il est dérisoire. Sur un budget de 400 000 euros, c'est 20 euros la cotisation et 8 pour les demandeurs d'emploi ou
étudiants.
Mais c'est surtout un poids politique, en fait. Camille, elle vous disait, on fonctionne que sur des appels à projets, des demandes de subventions. Plus on est d'adhérents, plus on a de poids pour décrocher ces appels à projets et ces subventions, donc pour continuer à vivre.
Pour terminer cette émission, on peut donner une adresse mail pour vous contacter, alors avec des dons, et puis ou ne serait-ce que les bénévoles, ou même pour le public, besoins. Effectivement, s'il y a des besoins, que ça se sache, effectivement.
Alors nous sommes situés au 10 Place Neuve, au centre de vie du Sanitas. Nous avons, comme vous le disiez tout à l'heure, des permanences dans l'entièreté du département que vous retrouverez sur notre page Facebook. Nos coordonnées téléphoniques sont le 02 47 20. 97 43 et le mail c'est contact@leplanningfamilial37.fr.
Et si je peux rajouter, la page Facebook c'est Planning Familial 37 parce qu'on vous a pas précisé que le Planning Familial c'est un mouvement national, donc il y a des antennes dans tous les départements. Donc pour nous trouver, nous, c'est bien Planning Familial 37 sur Facebook.
Merci pour cette dernière information qui est très importante. Ce n'est pas juste sur le territoire de l'Indre-et-Loire. Je vous remercie. Agathe, merci de nous avoir donné votre temps pour développer ce qu'était le planning familial 37. Merci Camille, merci Agathe. Donc, peut-être pour un autre sujet, peut-être à bientôt. Au
revoir.
Au revoir.